nombre de gens traversent l'existence avec ce qu'elle leur apporte de bénéfique, en ne prenant jamais la peine de s'arrêter un court instant pour remercier leur Dieu de ce qu'il veut bien leur accorder. Déjà, Jésus avait rencontré ce genre d'attitude, et l'Évangile en Luc, chapitre 17, versets 11 à 19, nous le relate. En chemin pour Jérusalem, Jésus longeait le territoire de Samarie et de Galilée, et comme il entrait dans un village, dit la Bible, vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance 10 lépreux. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous !» En le voyant, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis-il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le personnage principal de ce récit, dont nous ne connaissons même pas le nom, se trouve d'être un homme rempli de gratitude envers l'Éternel. Combien est rare, cependant, la reconnaissance. La Bible nous dit ici que 10 lépreux sont guéris et que seulement un d'entre eux, 1 sur 10, revient vers le Seigneur pour le remercier. Cela signifie que 90% de ceux qui reçoivent une bénédiction de Dieu continuent à agir comme si de rien n'était, sans même avoir une pensée pour leur bienfaiteur. Regardons de plus près ce récit pitoyable. Premièrement, à la lueur du cri de détresse des lépreux. Deuxièmement, en considérant la réponse pleine de compassion de Jésus. Et troisièmement, en pensant au sens qu'éprouve un des lépreux. Tout d'abord, les 10 malades, étroitement liés par la détresse, supplient le maître qu'il ait pitié d'eux. Au moins l'un d'entre eux est étranger, un samaritain, race exécrée par les juifs. Il est étrange de constater que la misère unit des gens qui, sans cela, n'auraient jamais vécu ensemble. Les afflictions, les persécutions, la maladie unissent les êtres en dehors de tout esprit de race, de couleur et de nationalité. Qu'un naufrage, un incendie ou un tremblement de terre survienne, et aussitôt on se serre les coudes et des liens étroits se créent afin de lutter contre les épreuves. Mais revenons à cette terrible maladie dont ces 10 hommes sont affligés. L'un des maux les plus effroyables de l'époque. Celui qui en était atteint se voyait entièrement désarmé, et livré du jour au lendemain à l'opprobre de ses semblables. Il n'existait aucun remède, aucun moyen d'empêcher leur chair de s'en aller en lambeaux. C'était un mal hideux qu'on croyait contagieux. Les Juifs isolaient totalement les lépreux des êtres saints. Tout leur était interdit, travail, famille, même le temple. Mais lorsqu'ils venaient à la synagogue, il fallait qu'ils y arrivent en avance sur les autres Juifs et ne partent qu'après eux. Là aussi, leur isolement était total et leur misère ineffable. L'histoire juive raconte que certains rabbis leur lançaient des pierres pour les tenir à distance et d'autres se cachaient à leur approche ou encore s'enfuyaient en courant si un lépreux se trouvait dans les parages. Si quelqu'un s'approchait d'eux à moins de 2 mètres, les lépreux devaient reculer et crier « Impur, impur !» Ce triste tableau fait ressortir l'attitude pleine de compassion que Jésus adopte à l'égard de ces 10 lépreux qui se présentent à lui. Il est même étonnant de constater qu'ils osent l'approcher et même lui adresser la parole. Jamais ils ne l'auraient fait à l'égard d'un docteur de la loi, car ils auraient été traités avec sévérité et chassés aussitôt. En Jésus, quelque chose devait attirer les pécheurs, les malades, les rejetés de la société. Christ était d'un abord aisé, car il se souciait de ceux à qui personne ne prêtait attention. Cela nous enseigne que nous devons aimer, éprouver de la solitude pour ce genre de personnes et de leur faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Luc, au chapitre 5, nous dit que Jésus alla même jusqu'à toucher le lépreux, se réprouver de terre. Cette manière d'être constitue ce qui paraît être un concept nouveau à propos de l'homme, une sorte de révolution quant à l'idée que le Dieu d'amour se fait de l'être humain et que on ne voulait pas voir auparavant. Cela donne un fantastique espoir à ceux qui comprennent enfin que leur religion ne se compose pas simplement de l'observation d'une longue suite de règles de prescription. prescription, mais bien quelque chose qui se vit, se pense, se pratique autrement que par des mots et des théories. La lecture de Luc 5, 12 et 13 nous convainc d'emblée que la guérison effectuée par Jésus est étrange à plus d'un égard. En effet, d'après la loi des Juifs, un lépreux qui était guéri ou estimé l'être devait aller se présenter au sacrificateur qui, après l'avoir examiné, délivrait une sorte de certificat de santé. Cela lui permettait de retourner vers sa famille, de reprendre son travail ainsi que sa place dans la société. Jésus dit simplement aux lépreux, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Il ne leur donne aucun médicament, ne leur impose pas les mains, ne parle pas d'aller se baigner à un certain endroit, ni ne prononce aucune parole incantatoire. Il leur dit d'aller trouver les prêtres. Mais cette phrase d'apparence anodine implique cependant l'idée d'une guérison. Et la Bible dit qu'ils furent guéris pendant qu'ils y allaient. Voici donc la foi en action. Ces hommes sont des impurs. Et l'ordre reçu est absolument contradictoire, puisque d'après le rituel, cet ordre doit être l'indication d'une guérison, mais aucun doute ne les atteint. La purification survient. On peut très bien imaginer la scène. Ils sont lépreux. Sans aucun doute portent-ils les stigmates de la maladie. Cependant, c'est avec confiance, avec foi dans la promesse sous-jacente du Christ, qu'ils vont vers le sacrificateur afin qu'il sanctionne la disparition de leur maladie. Il est évident qu'ils commencent à éprouver et à voir les effets de la guérison. Les cris de joie devaient certainement succéder aux exclamations d'incrédulité et les interrogatoires aux grandes tapes dans le dos. Peut-être ont-ils rendu gloire à Dieu pour cette purification inexplicable et ont-ils couru vers leur famille et leurs amis afin de leur en montrer les effets. Sans doute se sont-ils hâtés d'arriver au temple pour y recevoir le certificat tant désiré. Dieu agissait en quelque sorte au diapason de leur foi et leur guérison s'effectue graduellement au cours de leur trajet. L'élément principal à retenir de cette partie du récit est que le Seigneur nous aide toujours lorsque nous agissons par la foi et par l'obéissance. Quoi que Dieu nous demande de faire, faisons-le. À quoi sert-il de rester sans agir tout en doutant et en nous posant des questions sur les conseils et les promesses de l'Éternel? Si ces lépreux avaient adopté cette attitude statique, auraient-ils été guéris? Rester sans bouger tout en rêvant et en émettant doutes et théories ne mène jamais à rien. Ce dont nous avons un urgent besoin, c'est d'action, d'obéissance, de confiance aussi dans le fait que Dieu peut nous guider vers une connaissance plus grande, plus profonde de la vérité. Parfois, avouons-le, nous aimerions percevoir le bonheur, la joie, la purification de notre esprit en dehors de toute manifestation de notre foi. Nous exigeons pratiquement que le miracle venant de Dieu s'exerce spontanément, sans aucune élévation spirituelle de notre être, c'est-à-dire sans l'exercice de notre confiance. Et cela n'est ni juste ni logique. Un médicament doit être pris avant qu'il ne guérisse. Le pain mangé avant que la faim ne passe. Pour que la volonté de Dieu trouve en nous son accomplissement, il faut lui donner notre confiance et l'écouter, tout comme le lépreux. La racine précède le fruit. Nous devons nous fier à Jésus et lui obéir avant de découvrir combien il peut bénir notre existence. L'histoire des lépreux illustre merveilleusement une vérité première. Personne n'a jamais fait appel au Christ en vain. Celui qui demande reçoit. Toute requête est entendue ou reconnue. L'ensemble de la misère humaine trouve son aboutissement dans la puissance du Maître. La grâce de Dieu est capable de briser n'importe quel obstacle, car nul être humain ne reste dans le désespoir s'il ne se tourne vers lui. Il y a bien des années, Rudyard Kipling écrivait au sujet de l'amour de sa mère. Lorsque je me trouvais sur la plus haute montagne, je savais que son amour m'atteindrait encore. Lorsque je me noyais dans les mers les plus profondes, je savais que ses larmes m'atteindraient encore. Lorsque j'étais condamné de corps et d'âme, je savais que ses prières m'atteindraient encore. Si l'amour d'une mère peut accomplir tout cela, à plus forte raison, celui de Dieu. Les dix lépreux furent guéris, mais seulement l'un d'entre eux retourna vers Jésus pour rendre gloire à Dieu et le remercier à haute voix. Il tomba face contre terre au pied du Christ et lui rendit grâce pour ce qui venait de lui être accordé. Il ne fait aucun doute que Jésus est très sensible à notre reconnaissance et qu'il ressent cruellement l'ingratitude. Non pas qu'il en éprouve le parce qu'il sait que cela nous est nécessaire. Il pose la question, les dix n'ont-ils pas été purifiés? Mais les neuf autres sont-ils? Il est essentiel, normal, logique que nous louions Dieu pour une bénédiction. La louange n'est pas autre chose que l'expression de la reconnaissance à l'état pur qui permet d'être très proche de l'adoration envers Dieu. Le lien entre ces deux expressions relève d'un sentiment de profond contact avec le Créateur. La Bible dit même que louer Dieu, c'est célébrer sa gloire. De nos jours, nous avons pratiquement perdu l'habitude de louer l'Éternel. Les cinq derniers psaumes, du 146e au 150e, débutent et se terminent chacun par des louanges, ainsi que d'autres, comme par exemple le 105e, qui commence par ces mots: loue l'Éternel, invoque son nom, chante en son honneur, parle de toutes ses merveilles. Nous aussi, nous avons besoin de le faire. Jésus a toujours encouragé les louanges et les actions de grâce parce qu'elles sont des expressions directes du cœur. Un prédicateur bien connu dit un jour à son assemblée: « Je serais plus édifié par vos prières si elles comportaient une part de louange. » Mais n'est-on pas plus porté vers la supplication que vers les remerciements? On pense qu'il est tout normal de demander ce qu'on désire alors qu'on omet de louer Dieu pour ce qu'on possède déjà. L'esprit de gratitude peut nous rendre heureux sur terre. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Il faudrait penser « Rien de ce que je suis, et était, ou serai, rien de ce que je possède et possédé, ou posséderai, rien de ce que je fais et fais ou ferai, rien parmi mes ressources, mes capacités ou ma force. Rien n'est immérité, mais tout est simplement venu par la grâce du ciel. » Tout comme vous. Nous pourrions penser à nos bénédictions sans songer à Dieu, et nous pourrions aussi considérer son attitude sans éprouver une gratitude profonde, mais telle n'est pas notre manière d'envisager les choses.